Take up Forbes with Ford. Got football tours, haters hot, ignoring that torment. Sit back to the pot like porridge. Crack rock, what I wrote still dope is. Cat in this space, play sofas. Use a trade dope for a loaner, 10-piece mode, get your chauffeur. Thought I told you niggas won't slow up. Long bastard, grown ups, or grown some. No threat, shotgun to one deck. Handgun plus one, and that's a quartet. Hold up a set. Just speaking verses, check and search. I'm the best with words on loops, it's cursive. Labels jerked them, bounce right back. Tell them who's deserving more. Encore, it's yours. 20s on chrome coach doors. Meats on the floor, no Ford. Cadillac, new space.
Yeah. It sounds cool, but it's just one hair in a suit. I played the stoop, stand at the roof, bearing the fruits. Cut switch up, same threads I wear to the shoot. Now my chips up, this month I swear to pollute. Most of my life I watched the others eat, I was under my mother's reach. Now I got my own corner dog, cousin was up the street, the blunt was peach. Weed was Arizona, the guns was cheap, what a week. Greed and paranoia was nothing sweet. Niggas with money and power ain't got respect now. Fake shit, watch him shapeshift, he a reptile. Project Exile, you know the feds can't wait to nab us, check the Fed files. They got the whole family tree sketched. Down. You don't know, cause you wasn't off the porch yet. It all changed when I left the doorstep. Young E.B. war vets, skin in tune. Stretching had a missing June. Homesick, got a dress to sell like the living room. Corners, turners, the man quit. Now all they want us to do is send flicks. Take pride in my friendships. Day five in the trenches.
Why they come to me? Why do I deserve this? What have I ever done to make you take me so disrespectfully?
Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Cet été, Chiz 94.3 redevient baseball et on vous présente les matchs locaux de l'équipe Québec sur les ondes FM. La formation qui regroupe des joueurs des Capitales de Québec, des Aigles de Trois-Rivières et des Titans d'Ottawa disputeront une série de matchs au Stade Canac de Québec. La deuxième série sera du 20 au 22 août contre les Valley Cats de Tri-City. Toutes les heures complètes seront disponibles sur lechiz.ca.
The following program is disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Découte!
Je l'ai coupé sec, cette année. Hey, ça va bien, Cambrise et Mortadelle, Chiz 94.3. Déjà, on approche à la mi-août. Hein, on commençait l'été, puis on s'attendait pas à se rendre là. Ben oui, mais on s'attendait, mais pas aussi vite. Donc, il y a une grosse semaine, il fait chaud cette semaine, quasiment 30 degrés chaque jour. Mathieu Gagnon, qui est à l'appareil, et je ne suis pas seul encore une fois cette semaine. J'ai emmené un autre de mes amis, j'ai plug tout, du monde que j'aime. Alexandre Bellemare, qui est là cette semaine. C'est pas parce que vous êtes pas invité que je vous aime pas. Là, je sais qu'il y a des amis que j'ai pas encore invités, puis que j'inviterai pas, mais c'est pas parce que je vous aime pas. Alexandre, ça va bien?
Hey, ça va, Mathieu. Écoute. Ça fait au moins un an et demi que j'ai pas passé ce genre de soirée-là, souper au pub. Écoute,
ouais,
on retrouve le passé, on est heureux. Je peux pas être plus heureux que ça d'être ici en ce moment.
Tant mieux, si t'aimes ça. Moi, j'adore ça aussi, mais c'est une des raisons pour là, les gens qui se mettent en contexte. Pas mal tout le monde qui nous écoute connaissent l'Université Laval, mais pas que. Et puis, c'est ça, le pub universitaire qui est comme le restaurant à l'Université Laval, genre bouffe de pub, hamburger, frites, poutine et tout. Puis on a l'habitude de venir souvent parce qu'on, justement, on est des gens très présents dans la communauté universitaire. Pas nécessairement parce qu'on est étudiant à cause de l'impro pour d'autres raisons. Puis, c'est ça. Moi, ça a été un des plaisirs de faire cette émission-là, de revenir ici puis de profiter des lieux. L'odeur, il y a une odeur à l'université, elle est pas mauvaise. Mais tu sais, tout ça, l'ambiance et tout, très content de savoir que je suis pas seul à m'être ennuyé de tout ça. Un gros programme encore une fois cette semaine. J'ai dit, on achève, fait qu'on va stocker des affaires dans une heure. On a notre amie qu'on connaît aussi de la Ligue universitaire d'improvisation, Marie-Pierre Bolduc-Crustan, qui va venir nous parler d'un projet qu'elle a avec son conjoint, Julien April, qui s'appelle Les Potagers du Vallon. C'est ça, je sais pas très cherché, je le dis tout le temps. Puis c'est ça, on va voir un peu de quoi il en retourne. Et puis là, on est vraiment dans l'agroalimentaire cette semaine. Deuxième partie, on a un sommelier bière de réputation que je ne connaissais pas avant. J'ai fait mes recherches, quelqu'un qui a l'air super intéressant. Monsieur Yann Lortie, qu'on va avoir en deuxième partie au téléphone pour discuter de bière. On aime bien ça les deux. Je pense qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant qui va en sortir. Toi, est-ce que tu as déjà, la question que je pose à chaque semaine, les Camerises? T'as-tu déjà mangé des Camerises?
Bien, j'ai jamais mangé de Camerises. Puis comme probablement tout le monde a dit depuis le début de la saison, je les ai bu en bière.
Ouais.
Mais te connaissant, tu m'en as énormément parlé. T'as fait des albums de musique sur la Camerise. Ouais. C'est un fruit qui me parle beaucoup. L'année passée, on faisait le tour du lac, ma blonde et moi, puis on est passé devant un stand à Camerise, puis on s'est dit on arrête au prochain. Mais il était comme rendu 17h, puis c'est le seul qui était encore ouvert, fait qu'on l'a regretté longtemps.
Mais ça dure pas longtemps, Camerise, un mois, la fenêtre est courte. Après ça, tu peux peut-être en trouver congelé avec des fournisseurs et tout, mais c'est ça, c'est un bleuet fait seul long, comme je dis souvent. Avant de passer aux nouvelles, on est commencé une petite minute en retard cette semaine, je vais quand même le dire. Je parlais en onde depuis le début de la saison des produits alimentaires de Peter McLeod, la pizza, en fait. Peter McLeod a lancé sa pizza, et puis j'ai fini par y goûter. Je l'avais acheté, je l'avais dans le congélateur depuis un bout, puis je cherchais toujours un peu, ça va être quoi la bonne façon de goûter en onde. Finalement, j'ai dit, je me le suis fait chez nous de fin de soirée, on a fait cuire la pizza.
C'est vraiment sûr qu'ici, ça aurait été comme compliqué.
Il a fallu que j'en fasse réchauffer au micro-ondes. Ça n'aurait pas rendu justice au produit.
Tu l'as fait-tu cuire au micro-ondes?
Non, j'ai fait mon four. Okay, et puis, parfait. Elle était vraiment pas bonne, la pizza.
Ah, c'est vrai?
Moi, je suis pas difficile, ces pizzas congelées. Peu importe c'est quoi qui est en spécial, Dr. Oetker, mais j'essaie de tout. Mais pour vrai, ça marche pas. Puis, je sais pas, le pepperoni était pas bon. Trop épais, genre de texture,
la pâte,
un peu de chewy. La pâte, c'était le point fort, mais dur d'équilibrer en cuisson avec le fromage et tout. Tu sais, genre de pâte trop épaisse, pas assez pré-cuite. Goûtait pas grand-chose. Puis en fait, c'est pas grave, mais elle coûte le prix d'une pizza premium, là, les Mike's et Resto Pizza de ce monde, une dizaine de dollars. Je dis pas de l'éviter, mais moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que je vais racheter, c'est ce que je voulais dire.
Mais moi, je suis vraiment curieux de la sauce rosée.
La sauce rosée. Ouais, j'ai juste goûté à ça. Mais écoute, on va aller vite parce que je me rends compte qu'il est déjà 40 et puis on a tellement un gros programme, mais c'est pas grave parce que je suis pas tranquille, moi, dans la vie. Je suis pas stressé. Mais j'ai quand même un thème trop long pour les nouvelles que mon ami Félix Joseph de l'Abbé nous a faites. On va l'écouter. Je l'ai pas écouté avant encore une fois, puis on va découvrir ça avec plaisir. Merci, Félix. Excusez, il y a d'autres choses. Hey boy, merci beaucoup Félix, j'ai beaucoup aimé celui-là, honnêtement, je le réécouterai.
Juste pour te dire, là, moi j'écoute tous tes épisodes, puis Félix, merci beaucoup pour tous ces thèmes, je m'en réjouis à chaque semaine.
Parfait. Ben écoute, là, j'avais beaucoup de nouvelles cette semaine, pas toutes bonnes. Fait que, pour des raisons de temps, je vais couper les deux trois que j'aurais pas dû mettre, mais que j'ai mis parce que j'en avais pas assez. Une femme poursuit McDo cette semaine pour une raison vraiment ridicule. Enfin, une femme poursuit la chaîne de restaurants McDonald's puisque l'entreprise a osé, dit-on, diffuser une publicité de cheeseburger alors qu'elle faisait le carême en 2019, le jeûne du carême. Et puis, elle tentait de se tenir alors à l'époque à l'écart des produits de viande et de produits animaliers. Donc, elle poursuit McDonald's. Je pense pas qu'elle va avoir gain de cause. Mais c'est insolite. Toi, est-ce que t'as déjà poursuivi McDonald's?
Ben, j'ai un ami qui s'est déjà plaint au McDo parce que lui, il aime pas les condiments dans la vie.
Okay.
Fait que il avait eu du ketchup dans son McDouble qui avait demandé plainte. Puis McDo lui a donné une carte cadeau de 20$.
Ben, ils sont quand même gentils.
Pour un McDouble qui coûte quoi? 3 piastres?
Ouais, c'est pas rentable, mais j'imagine que lui est sorti satisfait. Il va peut-être y retourner après ça. Une autre nouvelle que moi j'aime beaucoup, tu peux manger et prendre un cocktail suspendu à 50 mètres dans les airs à Montréal cet été. En fait, l'entreprise qui s'appelle le Dîner entre ciel et terre débarquera sur l'île des Sœurs du 18 au 21 août prochain, nous rapporte bien sûr Beach News Everyday. Enfin, il va être possible de prendre la formule cocktail ou la totale, puis c'est un 5 services, et tout ça dans une genre de petite capsule suspendue par une grue à 50 mètres dans les airs. Donc, c'est 75$ par tête pour le cocktail seulement et un bon 2,25 pour le repas. Donc, c'est mieux d'être bon. À ce prix-là, c'est un prix d'un très, très, très bon restaurant, là. Mais c'est dans les airs.
Ben, vous saurez où me trouver dans 9 jours pour la prochaine
chaque
semaine.
Chaque soir, tu vas aller manger là, dans les airs. Mais vous allez voir les photos, c'est comme une genre de grue. Puis je pense qu'ils font plusieurs villes, je sais pas trop c'est quoi cette patente-là, mais allez-y si ça vous tente. Moi, ça me tente pas. Ce look estival, grosse nouvelle, ça fitait tellement avec l'émission, cette nouvelle-là, que deux personnes, dont toi, me l'ont envoyé en disant, faut parler de ça. Ce look estival de Gino Chouinard ne plaît pas à tout le monde. Bon, pour mettre les gens en contexte, Gino s'est fait une moustache. Une moustache grisonnante.
Ouais, il a commencé par la bande, ouais, puis ça. Après, il s'est rasé.
Il avait comme
la
un
bande,
gasket. Ouais. Là, c'est ça. Il est rendu avec juste une moustache, puis des lunettes. Fait que là, il y a des gens qui le comparent à Marcel Béliveau, que vous connaissez peut-être, feu Marcel Béliveau, qui faisait Surprise, Surprise. Et les réactions sur les médias sociaux sont très, très mitigées. Les gens sont pas tellement d'accord. Toi, est-ce que tu as aimé ce look de Gino?
Ben, moi, à première vue, quand je l'ai regardé, Gino, j'ai un peu. Je sais qu'il n'y a pas de moustache, mais ça m'a un peu fait penser à. Il dégage quelque chose de Pierre-François Legendre là, dans Les Invincibles. Là, ouais. Quelque chose de Carlos.
Bon gars.
Très,
là.
Très incarné, bon gars. Qui, je l'ai beaucoup aimé, Gino, comme ça, mais surtout que je porte la moustache. T'sais, mais
ouais.
En même temps, je me découvrais un frère, mais je voyais que les gens n'étaient pas tous d'accord.
Non, moi, j'ai bien aimé ça. C'est différent parce qu'on le voit tellement comme une poupée de cire de la même façon depuis 20 ans, ben 15 ans, mettons. Fait que c'était quand même un choc. Puis si on reste dans pilosité faciale et capillaire, Laurent Duvernay-Tardy, notre surhomme national au Québec, rase sa fameuse barbe et opte pour un style audacieux. En fait, il s'est fait un genre d'handlebar. Probablement, ouais. Fait que ça fait jaser. Toi, est-ce que t'as déjà pensé avoir un handlebar? Je suis sûr qu'il ne voyait pas Alexandre, il a une grosse moustache. Il est en story de l'émission sur Instagram.
Mais en fait, je pense que j'ai pas la pilosité faciale pour ça. J'ai comme une maman.
C'est pour ça que t'as juste.
J'ai juste la moustache. Mais tu sais, pour moi, Laurent, qui est au Kansas, c'est un peu. T'sais, il prend le look de la place, si on veut. Là.
Ben c'est ça. Ben parfait. Ben c'est, encore une fois, ça divise. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien.
T'as-tu déjà pensé, toi, Mathieu, te faire poser un gasket?
Non, j'ai pas. Moi, j'ai comme toi, c'est incomplet à des places. J'ai beaucoup de barbe dans le cou, un petit peu ses joues, puis moustache ordinaire. Je pourrais même pas avoir de moustache comme toi.
Mais on te le souhaite, mon gars.
On fait ce qu'on a. Une autre nouvelle, on tombe dans l'insolite maintenant. Je vais un peu en désordre, là, justement, pour des raisons de temps. Le vol d'une cloche de plus de 200 kg laisse une communauté perplexe en Alberta. En effet, une cloche de cuivre, et là, c'est peut-être la raison pourquoi elle a été volée d'ailleurs, géante qui trônait au sommet de la tour de l'église catholique ukrainienne dans une communauté rurale en banlieue d'Edmonton, a disparu il y a une semaine déjà. Donc, le vol s'est produit quelque part entre... Ben, une semaine, c'est une vieille nouvelle dans le fond. Le vol s'est produit entre le 19 et le 24 juillet. Donc, c'est une petite communauté de moins de 500 habitants. En fait, c'est ça, c'est une cloche de plus de 200 kg qui était vissée dans une tour en bois de 2 étages. Donc, la valeur, qui est... c'est une cloche qui était là, qui est plus quasiment centenaire. Et là, on sait pas combien ça vaut. Les gens là, la GRC se demandait, c'est-tu une blague? C'est-tu un quoi? Mais en fait, probablement que l'explication la plus rationnelle, là, selon la GRC, c'est que les gens voulaient le cuivre. Écoute, une cloche de cuivre, comme ça, les gens volent des fils de cuivre dans des dompes.
Mais en même temps, Mathieu, tu sais, chez vous, tu laisserais-tu tes bijoux dehors de même à la portée de tous? Tu sais, je veux dire, cette cloche-là, c'est un peu le bijou de l'Église.
Non, c'est ça. Puis, en fait, ce qui me fascine, c'est vraiment l'effort. Puis, je pense que c'est ça qui fait que c'est cocasse. Là, c'est que, tu sais, la cloche, déjà, est très lourde. Puis, il faut que tu montes la chercher. Là. Fait que, clairement, c'était comme arrangé avec le gars des vues ou quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans l'église. En tout cas, c'est ma théorie. Je ne veux pas accuser personne.
Il y a un gars qui a loué un Skyjack puis il est allé.
Non, c'est ça. Ben, écoute, une nouvelle que je trouve intéressante de parler parce que je sais qu'on a écouté les deux Big Brother. Puis, c'est pas des gens qui se réduisent à Big Brother. On les connaît pour Claude Bégin et Lisanne Nadeau qui se sont séparés cette semaine ou en tout cas la semaine dernière. Mm. Et puis, l'univers est en deuil, l'univers média est en deuil, donc voilà. Mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que ça t'attriste?
Je vis quelque chose de mitigé là-dedans parce que, à mes yeux, Lisande, c'était une compétitrice féroce pour Jean-Thomas Jobin. Mm-hmm. Je la voyais aller loin, puis on comprend que ça s'est arrêté un peu à cause de cet amour-là pour Claude Bégin. Puis je me dis, pour 3 mois, est-ce qu'on a sacrifié trop, tu sais?
Mm-hmm. Non, je suis quand même d'accord avec ton point de vue. Puis ça me fait passer tout de suite à ma dernière nouvelle pour aujourd'hui, que je pense que tu vas beaucoup aimer. Des passionnés préservent la légende des sirènes, nous titre La Presse. En fait, l'événement baptisé Mer Magic, qui se déroule à Manassas, Virginia, s'est tenu de vendredi à dimanche dernier, ça c'est vrai, qui attire des passionnés de tous les horizons. En fait, c'est comme un événement où les gens se déguisent en sirènes et rendent hommage au monde des sirènes, en fait, toute la fin de semaine. Donc, une des confondations d'adresse du salon, Morgana Alba nous dit « C'est ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire de nager pour être une sirène ni posséder une queue. » Puis elle a dit aussi qu'on trouve des légendes de sirènes dans toutes les sociétés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'être une sirène. En fait, c'est une façon de vivre, c'est très noble, de façon de dire que c'est ouvert à tous, peu importe à quoi tu ressembles, d'où tu viens, t'es qui. Les sirènes, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Toi, c'est-tu le genre de festival que t'aurais aimé visiter? Ou...
Ben, on pourrait s'acheter des billets pour l'année prochaine, je pense, Mathieu.
Ben, c'est parfait. Ben, écoute, sans plus tarder, parce que si on avait eu rien que des conneries après, j'aurais fait... Il me restait rien qu'une nouvelle. Alors, je vais la dire rapidement. Vas-y. Rapidement, je vais la dire. Opération de sauvetage pour un perroquet en fuite à Chicoutimi. Donc, en fait, au parc Rosaire-Gautier, à Chicoutimi, il y a un perroquet qui s'appelle Paco qui s'est échappé. Et puis, il a été localisé d'abord en haut d'une épinette de 30 mètres dans un boisé proche du parc Rosaire-Gautier. Et puis, aux dernières nouvelles, il est toujours en fuite. Donc, si vous voyez un perroquet dans le secteur Chicoutimi, je parle à ma mère ou mes grands-parents ou mon père qui est là, et puis je suis coutume nord, mais si vous voyez un perroquet, c'est peut-être Paco. Fait qu'alerter les autorités, il est recherché vivement. C'est pas un jet bleu.
Mais toi, t'es un gars de Chicoutimi?
Ouais. Je suis coutume nord, je suis plus coutume nord, ma mère.
Fait que... Mais tu connaissais-tu Paco?
Non, je connaissais pas le gars. Je connais Paco Automobile, il y a un enfant de char à Chicoutimi qui s'appelle la même. Mais bref, on va continuer la musique. On va y aller avec une chanson de Comment de bord. Je pense que j'en ai pas passé encore ici. Un album que j'ai adoré. Les fans de musique des années 70, des références à plein de choses, dont Beau Dommage. En fait, c'est la pièce qui ouvre l'album éponyme qui est sorti cet automne, en fait, ça fait déjà un petit moment, qui s'appelle Chalet. On écoute ça. Pendant ce temps-là, on rejoint notre amie Marie-Pierre pour parler des potagers du Vallon et on revient tout de suite après pour jaser.
Je n'ai pas peur de les nuages qui viennent de l'Ontario. Oh. Ah, 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 ah. Ah, ah. Je les trouve bizarres quand même d'être pointus de même. Mais voyons donc, y'a pas personne dans place. Y'a pas personne dans la vie, y'a pas personne qui réalise. Que ça fait depuis les 70s qui a pas mangé de fucking cerises. J'aurais tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. J'aurais tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. Je suis jaloux des flots qui savent confondre le bruit des trains, puis des éclats au bon moment de la journée. À la grandeur des territoires sauvages de dépanneurs, puis qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance. Thank you.
c'était ça. Et c'est la chanson Chalet de Comment d'abord. Moi, j'aime beaucoup cet album-là. Alexandre, t'écouteras ça. On est de retour à Cambrise et Mortadelle. Puis encore là, j'étais pas tout seul, mais là, il y a quelqu'un qui nous a rejoint au téléphone. Je l'ai appelé pendant la chanson. C'est notre amie Marie-Pierre. Ça va bien? Ah, j'ai oublié ce que j'avais oublié de te mettre en onde. Ça, c'est moi, c'est mon style de radio. Mais là, t'es là, puis on t'entend bien. C'est bon.
Bon, ben oui, ça va bien.
OK, parfait. Ouais, c'est ça. Puis écoute, tu passes-tu un bel été jusqu'à présent?
Oui, super bel été, c'est ça. Nous, on cultive des légumes à l'Université Laval, là, sur campus, ce qu'on appelle, là, à côté de Robert Bourassa. On passe en été dehors.
OK, c'est bon, ouais, c'est ça, vous profitez. Mais en fait, je fais des blagues, là, mais c'est pour ça que je voulais te parler. En fait, tu as un projet qui s'appelle, je l'ai dit en début d'émission, les potagers ou le potager du Vallon. Ouais. C'est ça. Puis en fait, comment ça a commencé tout ça? Parce que moi, ce serait pas moi qui me dirais demain matin que je vais me mettre à cultiver une tonne de légumes. C'est quoi le point de départ de ce projet-là?
Le point de départ, en fait, moi puis mon chum, on avait un jardin de balcon à Limoilou pendant 3 ans, là, un projet qui est devenu assez gros que nos propriétaires disaient « Voyons, venez-vous de la campagne? » Ce qui n'était pas le cas.
Fatiguant, les voisins un peu.
c'est ça, c'était très intense. Puis là, on trouvait ça le fun. Puis là, on s'est inscrit à un programme. Puis on s'est dit, si on est choisi, ben on se lance. Puis ça s'appelle le Camp agricole de la capitale nationale. Mm-hmm. Fait que ça, c'est comme un incubateur qui permet à des gens comme nous qui n'avons pas de famille qui fait ça de se lancer en agriculture. Puis on a été choisi. Fait qu'on s'est lancé.
Ben c'est super. Puis là, vous avez pas. Est-ce que vous aviez beaucoup d'expérience? Parce que là, c'est ça, là, t'as expliqué un peu le projet. Est-ce que tu avais beaucoup d'expérience? Là, tu dis que t'en faisais sur ton balcon. Est-ce que vous venez d'un background d'agriculteur? Comment on commence à cultiver autant de légumes? C'est-tu la passion, le désir de nourrir les gens? C'est quoi qui vous a donné le goût de faire ça?
On aimait ça à Limoilou, mais c'était, tu sais, on est très amateurs. Puis on apprend sur le tas, là. Tu sais, c'est vraiment. Surtout mon chum, là, Julien, là, il lit des livres jusqu'à 10h le soir, 10h30, à savoir comment cultiver chaque légume. T'sais, c'est beaucoup d'apprentissage, mais c'est très stimulant aussi, puis c'est très concret. Fait que c'est ça qui était intéressant, mais on voulait un métier, travailler dehors, t'sais, forcer, sans faire du sport. Je pense pas que j'appellerais ça du sport, mais t'sais, on force quand même pas mal. Là, ça donne comme, c'est ça, une excuse d'être dehors.
Fait que là, c'est ça, vous cultivez légumes et fruits, si je me trompe pas, et légumineuses, non? Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça ressemble à quoi? C'est quoi l'offre en ce moment? Vous cultivez combien de variétés? Y a-t-il beaucoup de choses au menu pour cet été?
On a une trentaine de variétés, mais c'est sûr que des fois, il y a des choses qui lèvent pas, comme nos épinards puis nos carottes en début de saison. Ils ont pas levé parce qu'il faisait très chaud.
Ouais.
Fait que c'est jamais garanti, mais tu sais, on a deux sortes de tomates. On a des tomates jaunes italiennes qui sont comme moins acides. Puis on a des tomates rouges, les Big Peas, pour mettre le cultivar est développé pour mettre, mettons, dans les burgers. Là.
Okay.
Sinon, on a des poivrons. En fait, nous, on a essayé d'avoir le plus de légumes et de fruits que les gens étaient déjà habitués de consommer. Parce que des fois, quand on s'abonne à des paniers bio, on se ramasse avec des trucs bien intenses là, qu'on sait pas comment les cuisiner.
Des camerises,
Oui, c'est ça, des camerises et des mortadelles. c'est ça. Fait que à part, je pense que le truc le plus funky qu'on avait, c'était un chou rave, mettons, là, que les gens sont peut-être moins habitués de manger. Là. Mais sinon, tu sais, c'est vraiment tout ce qu'on pourrait trouver normalement à l'épicerie, là. Qui se cuisine bien.
Okay, ouais, c'est quand une approche intéressante. Puis justement, la façon d'accéder à vos produits, parce qu'il y a quand même quelques trucs comme ça qui existent de potager. Je pense que vous aviez un service d'abonnement, c'est ça. Au début, il est sûrement trop tard pour s'abonner, rendu en nous, mais ça fonctionne comme ça. Sinon, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut acheter vos légumes et fruits frais?
Oui, ben vous pouvez nous trouver sur Facebook. En fait, techniquement, il nous reste encore un abonnement. Fait que nous, on fait comme un prorata là avec le nombre de semaines qui restent là pour le montant. Fait que vous pouvez nous envoyer un courriel. Puis tu sais, depuis le début de la saison, à peu près à chaque semaine, on a 1-2 clients qui se sont rajoutés à notre liste. Là, fait que c'est quand même agréable.
Mm-hmm.
Sinon, on est aux 2 semaines au petit marché Saint-Jean-Baptiste qui est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, sur le parvis d'église Saint-Jean-Baptiste, en face de l'école Saint-Jean-Baptiste.
C'est là que j'achète, moi.
Oui, c'est ça, exactement. C'est là que Alex vient nous visiter puis qu'on emprunte ses toilettes vu qu'il habite pas loin.
Hey, c'est toute une affaire de monde qu'on plug. Mais écoute, je suis content de le dire parce que c'est un projet. Moi, je connais quand même Marie-Pierre assez bien dans l'improvisation, comme je disais au début. Puis je sais que tu es une fille de projet quand même. Tu as toujours t'as la fibre entrepreneuriale aiguisée, si on veut. Puis je trouvais ça vraiment le fun de justement parce qu'il y en a quand même quelques potagers du genre. Il y a quand même beaucoup de place où acheter ses légumes. Ne serait-ce que tu commences par l'épicerie à côté de chez vous. Fait que je trouve ça quand même intéressant de donner une petite vitrine à ce genre de projet-là. Peut-être en terminant, c'est quoi qui s'en vient pour les prochaines années pour le potager du Vallon? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre?
L'année prochaine, on espère être encore sur les terrains de l'Université Laval parce qu'on est, c'est ça, dans un incubateur, mais il n'y a rien de confirmé pour l'année prochaine. Sinon, on se magasine une paire. Okay. On a quelques contacts, là, fait qu'il est possible qu'on déménage dans le coin de Lévis, là, entre Charny, Saint-Jean-Chrysostome, entre autres. Il y a d'autres paires qui nous intéressent peut-être aussi, Saint-Augustin, Beauport. Fait que le but, c'est de retrouver un endroit qu'on peut cultiver, qui est le plus proche de la ville possible parce que c'est ce qui est important pour nous, pour la fraîcheur des produits.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui, à vos yeux, s'en vient comme pour être une carrière ou un projet? Tu sais, j'essaie de voir là, pour vous comment vous appréhendez la chose parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de passion là, dans ce projet-là.
Ouais, ben le but en fait effectivement c'est que ça devienne un mode de vie, un métier pour nous deux. Pour l'instant, pour avoir une sécurité financière, moi je travaille au gouvernement puis je viens être à temps plein sur le potager. Puis c'est un modèle qui est assez courant pour des couples, c'est qu'éventuellement celui qui travaille à côté, tu sais le potager décolle assez bien, fait assez de revenus que l'autre peut embarquer à temps plein aussi sur le potager là, fait que dans un horizon de 3 à 5 ans, moi j'aimerais ça être là temps plein avec Julien aussi là. Fait que c'est un projet de vie là. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs.
Ben, c'est tout à fait noble comme initiative. Écoute, j'ai pas encore acheté de légumes, je parle un peu à travers de mon chapeau, mais...
Mais c'est des très bons légumes.
Ben, on va aller chercher
des potages avec ça.
Dès que je vais pouvoir. Fait que, bon, ben, les gens peuvent vous suivre sur Facebook, les médias sociaux. Et puis, vous êtes aux 2 semaines pour encore quelques semaines dans Saint-Jean-Baptiste, au marché public. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de tout ça. Puis, on invite les gens à aller voir de quoi ils en retournent, s'ils sont vraiment bons, les légumes du Vallon.
Yes, merci, Mathieu.
Eh ben, merci à toi. Bonne fin de soirée. Donc voilà, ben c'était super le fun. On aime ça encourager on encourage local, comme disait Martineau de TikTok que j'ai
eu.
Je carbure juste à ça. Il veut encourager les commerces locaux. Allez juste sur TikTok lui aussi, on l'encourage. On va aller en pause, peut-être un petit bout de musique. On va appeler pendant ce temps-là notre invité Yann Lortie, sommelier bière. Et puis on va revenir juste après ça. Merci d'être là à chaque semaine.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Chiz pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
On a un petit problème technique. La console, il y a un piton qui commence à être enfoncé. Je sais que Chiz n'aime pas ça quand je dis qu'il y a des problèmes techniques, mais si vous m'entendez la direction de la programmation, je vais vous le dire. Et notre invité, on a eu le temps de le rejoindre pendant ce temps-là. Monsieur Yann Lortie, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté. On a toujours des bons invités, puis encore une fois cette semaine, on fait pas changement, on change d'univers. Je sais pas si vous avez vu, on change d'univers un peu à chaque semaine. Là, la semaine passée, on était dans le théâtre, fait que là, on est dans la bière cette semaine. Puis je pense que c'est ça, vous êtes bien placé pour en parler. Vous êtes sommelier bière. Puis je commencerai à vous poser cette question-là très simplement. C'est quoi un sommelier bière, puis comment on devient sommelier bière?
C'est une bonne question, puis c'est la question qu'on me pose le plus souvent, je pense, quand on lit ou on voit mon titre. Un sommelier bière, ça fait quoi? Ben, en fait, un sommelier bière, ça peut faire un peu de tout. Le sommelier bière est un spécialiste de la bière, mais qui l'intègre souvent, par contre, au niveau des fois de la restauration et même de la gastronomie. Mais un sommelier bière peut graviter autant en journaliste, il peut gérer un restaurant, il peut être consultant, il peut même travailler au sein d'une brasserie pour compléter une équipe au niveau sensoriel, organoleptique. Mm-hmm. Donc, c'est assez large. C'est une profession en construction, qu'on pourrait dire. Donc, les avenues sont larges. Pour la deuxième part de la question, comment on devient sommelier bière, ben, il n'y a pas un seul chemin. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire une formation à Ottawa il y a quelques années qui s'appelait un programme par la Cité collégiale qui était sommelier bière. Ce programme qui a duré quelques années, qui n'existe plus malheureusement présentement. Je ne sais pas s'ils sont pareils pour le redémarrer ou le mettre dans une autre formule. C'est une formation qui suivait beaucoup le même processus que le programme Sommelier 20, mais lié à la bière. Mm-hmm.
Mais toi, Yann, tu dis justement qu'on peut s'impliquer justement dans des restaurants, dans les médias. De ton côté, tu es plus impliqué à quel niveau en tant que sommelier bière?
J'ai fait deux choses, en fait. J'étais en milieu de la restauration pendant près de 5 ans, bien, plus longtemps que ça, mais j'étais 5 ans sommelier bière ou vice-versa à Montréal. Mm-hmm. Je sais pas si vous connaissez, c'est une institution de la bière à Montréal, un des premiers bars à bière au Québec. Donc, c'est moi qui s'occupais de tout ce qui touchait les liquides là-bas pendant un certain temps. Puis, à travers ça, bien, toujours en diagonale et toujours aujourd'hui, je fais en fait de la formation puis de la consultation pour le monde. Des fois, ça peut être de la vulgarisation pour les médias, mais c'est surtout de la formation pour les restaurants, les brasseries ou de la consultation aussi pour les restaurants, les brasseries.
OK. Ben c'est ça, mais c'est intéressant parce que justement, c'est un titre qu'on voit de plus en plus pour des raisons dont on va parler un peu plus loin, mais on connaît, je pense que le métier de sommelier, là, dans le sens de la profession au niveau du vin, c'est quand même bien établi. Le rôle du sommelier dans les restaurants, c'est un personnage qu'on connaît bien dans l'imaginaire. Celui de sommelier bière, justement, est un peu méconnu. Je pense que ça s'est voué à changer. Puis justement, tu dis que c'est une question qu'on te pose souvent. Est-ce que tu considères qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce que tu fais ou est-ce que tu considères que les gens sont plus intrigués en général?
Bien, au Québec, les gens sont vraiment intrigués. Parce que je tiens quand même à dire qu'il y a quand même un certain... c'est pas tout le monde qui s'entend pour le terme sommelier bière. C'est un terme qui vient surtout du vin. Et le vin aime ce terme-là. Donc, se l'approprier pour la bière, c'est un peu plus touché. Mais je pense qu'en l'utilisant, les gens comprennent bien ce qu'on fait.
Ouais.
Si on va en France, par exemple, ou en Belgique, les gens vont utiliser ce terme zytologue. Donc, en gros, ce sont des gens qui sont spécialisés dans la bière. Le sommelier, ben, au Québec, les gens sont vraiment intrigués par la chose parce qu'il y a de plus en plus, ben, il y a des établissements, ben, on s'entend, le monde de la microbrasserie explose au Québec, c'est le cas de le dire. Puis je pense qu'en juin dernier, on était autour de 280 micros, ben, de brasseries en général, dont les microbrasseries. Plus majoritairement, ce sont des microbrasseries, en fait. Et on a des restaurants qui commencent à monter des cartes de bière. Il y a beaucoup de bars à bière spécialisés. Donc, il faut quelqu'un sur place qui connaît bien son produit, qui peut bien l'expliquer, qui peut bien le partager, former les employés, mais aussi tout s'occuper de ce qui touche au service, à la type de verrerie, à entretenir un système de fût, l'ajuster en fonction du type de verre, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres si on veut valoriser la bière que le sommelier peut accomplir au niveau de la restauration.
Ben justement, ça, c'est la partie métier de sommelier, mais on voulait parler de la bière. Parlons-en, justement, parce que moi, je suis un grand consommateur. Je connais beaucoup la scène de la bière au Québec. Je suis ça de près. Je pense qu'Alexandre aussi. Il y a quand même quelques sujets sur lesquels j'aimerais t'entendre. Justement, tu as dit que ça explose les micros au Québec. Comment tu vois ça, cette explosion-là? Quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps puis qui a sûrement connu un pré-explosion, justement, en tant que quelqu'un de très impliqué dans le milieu, tu vois ça comme un problème? T'sais, l'offre est énorme. Les tablettes, il y a beaucoup de compétition pour être sur les tablettes. Il y a tellement de bons produits. Comment tu vois ça, toi?
Oui, ben c'est en fait il y a des pour et des contre à ça. Le pour à ça, c'est il y a une explosion, on parle de 280 brasseries. Par contre, il y a une réponse du consommateur. Les gens en consomment, puis les brasseries continuent à ouvrir, les banques continuent à financer. Donc, il y a un intérêt, il y a un marché. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que on commence à tendre vers un marché qui est mature. Bon, au niveau de la consommation, oui, mais au niveau de ce que les brasseries produisent. Il y a présentement beaucoup de brasseries qui ouvrent chaque année, puis c'est rare que je tombe sur des brasseries qui brassent des mauvaises bières. Des fois, c'est ordinaire, des fois, c'est sublime, mais c'est rare qu'il y ait des défauts majeurs ou des trucs qui sont pas bons. Donc, les gens qui parlent des brasseries savent où ils s'en vont, ils sont formés. Donc, il y a une espèce de culture et savoir-faire très, très fort qui se construit présentement au Québec. Donc, ça, c'est positif. Le côté négatif, oui, c'est la saturation sur les tablettes. Donc, vous connaissez ça, Alexandre connaît ça aussi un peu. Vous arrivez dans le client moyen qui connaît moins ça arrive devant une tablette d'un dépanneur spécialisé ou d'une grande surface d'une épicerie, puis ça peut être étourdissant de voir 300 sortes de bières. La part des gens vont acheter avec un peu par hasard avec la couleur ou une étiquette qui leur plaise. Il y a un problème. Le problème, présentement, c'est qu'il y a beaucoup trop de produits qui vont sur les tablettes. Par contre, vu que le marché a grandi, ben il faut que les détaillants fassent des choix. Ils ne peuvent pas avoir les sortes. Puis c'est de faire des choix en fonction de ce qu'on aime, des produits locaux. Et l'autre paramètre à ça, puis il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a deux types de permis. Il y a le permis de brasseur, là, si on veut, classique, qui nous permet de vendre à l'extérieur, et le permis de brasseur artisan. Il y a un changement de législation dernièrement au Québec. Les brasseurs artisans ont le droit de vendre sur les tablettes maintenant, mais le brasseur artisan, à la base, il brasse sa bière et il la vend sur place. Pour voir, là, présentement, si on regarde dans chaque quartier de Québec, de Montréal, et dans tous les petits villages à travers le Québec, ou les grands villages, ou les grandes les villes, il y a une brasserie maintenant. Et les gens vont acheter sur place et consomment sur place. Donc, pour la consommation sur place, il y a encore beaucoup d'espace. Je dirais que chaque pop de quartier pourrait devenir une microbrasserie à la limite, puis on irait consommer notre bière sur place. Donc,
ouais.
Faut juste peut-être revoir un peu dans quoi on se spécialise, qu'est-ce qu'on fait. Les brasseries qui veulent ouvrir présentement doivent peut-être plus se spécialiser ou cibler un certain marché. On peut pas penser pouvoir en vendre partout au Québec.
C'est ça, ben justement, ce que tu dis, ça me fait penser un peu. Moi, je suis déjà allé au Vermont, en tout cas en Nouvelle-Angleterre, qui a longtemps été un peu la Mecque, là, un rituel. On aimait pour les amateurs de bière aller là. Puis je trouve que de plus en plus au Québec, on a des produits puis des expériences clients justement en brasserie, la culture du tap room, ce genre de choses là qu'on n'avait pas pantoute au Québec. Il y a ne serait-ce que 3-4 ans, je dirais là. Tu sais, justement, je trouve que de plus en plus, on a ça juste à Québec. Il y a 2-3 endroits, justement, qui ont vraiment le modèle Nouvelle-Angleterre, que tu as le food truck, que je pense à Alpha qui a ça. Je pense qu'il y a Noctem qui a un tap room depuis quelques années aussi. Toi, tu penses-tu encore qu'on a beaucoup à envier de ces marchés de bière-là? Je parle pas nécessairement des marchés européens où il y a des traditions millénaires là, de bière. Est-ce que tu penses que le Québec, depuis quelques années, est bien positionné par rapport à ces endroits-là, qui étaient justement la Nouvelle-Angleterre, mettons, qui a longtemps été considéré comme un berceau tellement fertile puis fécond pour les microbrasseries?
Oui, ben je pense qu'on n'a pas grand-chose en vie, effectivement. Il y a encore des brasseries à travers les États-Unis, à travers le monde, qui vont innover, puis nos brasseurs sont curieux, vont voyager, vont voir ce qui se passe, puis ramènent les idées, les reconfigurent à leur manière. Puis c'est une des beautés aussi de notre marché présentement. On a des brasseries plus traditionnelles, on avait des micro-brasseries plus traditionnelles, d'autres avec une œuvre gastronomique. Maintenant, on a des portes de garage, des brasseries genre portes de garage, tap room avec des tables dehors à la Belle-Angleterre. Donc, on a cette belle diversité-là. Puis, bon, naturellement, dans la dernière année, j'ai pas voyagé pour la bière, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît tous. J'essaie toujours de voyager au moins une fois par année. Là, je m'en vais à Denver prochainement, à la fin de l'année. Donc, je vais me remettre, voir ce qui s'est développé pendant ce temps-là. Mais non, je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à envier. D'autant plus qu'en voyageant, je réalise qu'il n'y a pas beaucoup de... J'ai jamais vu un endroit sur la planète bière qui a autant de diversité brassicole qu'au Québec. On voit bien anglais, on voit bien allemand, on voit de plus en plus. On voit bien belge, on voit bien américain. Puis c'est rare qu'on voit de très grande qualité, là, parce que c'est rare qu'on voit autant de diversité sur un marché. Donc on est en fait ultra choyé.
Tu parlais tantôt justement des bières qu'on retrouve en grande quantité sur les tablettes, mais on a aussi l'effet inverse là, de certains brasseurs qui sortent en quantité limitée, qui créent des espèces de lignes d'attente de peut-être 5 heures pour...
On parle du lancement de Messorem, qui était le gros événement en bière, les attentes de 20 heures pour... Ouais.
Exact, tu sais, puis je veux dire, même chose, exemple, pour si on recule dans le temps pour Oval, tu sais, les gens font la file pour aller chercher des produits qui sont... rare, mais est-ce que selon toi, ça peut miner un peu cette culture-là de la bière au Québec?
C'est une bonne question, puis j'ai pas la réponse exacte. Il y a quelques années, on allait faire des line-up pour des lignes pour aller chercher de la Eddie Topo au Vermont. C'était des lignes qui duraient 3 heures, mettons 2, 3, 4 heures. Mais maintenant, le bassin de population qui aime la bière microbrasserie a augmenté. Donc, ça crée des lignes beaucoup plus grandes pour des brasseries qui produisent des petites quantités. On parlait de Messorem qui ont eu des lignes assez hallucinantes. L'être humain va constamment m'impressionner. Je pense qu'il va faire un sociologue pour comprendre ça. Ouais. Le plus drôle là-dedans, c'est que bon, les produits rares, il n'en restait plus, mais les canettes de Messorem, il y en avait à mon dépanneur au coin de la rue deux jours après. Là.
Mm-hmm. Oh, ben, le lendemain, il restait la moitié du release. Là. Moi, j'ai un ami qui est passé le lendemain, puis j'ai pu avoir plus que la moitié des produits, en fait. Là. Il y a comme un plaisir d'attendre 20 heures ou en ligne, ou je sais pas, de participer à...
Ouais. Ouais. J'ai rarement fait des line-up. C'est pas mon truc de trouver la bière rare, quoi que ce soit, mais c'est plus de rencontrer les brasseurs puis de rencontrer les producteurs. Puis j'ai cette chance-là aussi de pouvoir le faire. Mais je me rappelle une couple d'années lorsqu'il y avait, mettons, des releases pour la double IPA des Trois Mousquetaires. Ils attendaient peut-être une heure et demie. Mm-hmm. Mais il y avait un esprit de camaraderie dans la ligue. C'était quasiment un événement d'attendre pour cette bière-là. Je sais pas, quand t'attends 10 heures, c'est très irrité à la fin, puis peut-être que c'est quand moins camarade à la fin. Je sais pas à quel point ça peut miner. C'est sûr que si ça vire de façon comme un party un peu sa brosse dans les lignes, ça fait une mauvaise image de la bière, ça pourrait déborder. Mais je sais pas à quel point ça peut miner l'image de la bière ou le fun de consommer des produits microbrasseries au Québec. Puis c'est des exceptions, hein?
Mm-hmm. Ben c'est ça, c'est juste parce que c'est un débat qu'on voit constamment sur, je sais pas si c'était un peu dans justement le médias sociaux, bière, ben sûrement, tu sais, puis c'est un débat qu'on voit constamment de gens qui sont très vendus à ces brasseries qui sont super hype là, puis d'autres gens qui disent, ben il y a d'aussi bons produits sur les tablettes, vous êtes-tu cave d'attendre 12 heures? La vérité est peut-être quelque part entre les deux, là, mais c'est un sujet,
oui.
Ouais.
Il y a des éléments marketing aussi, mais Sorem, ils brassent des bonnes bières, mais ils font un marketing.
C'est bien, ouais.
Maintenant, ils ont une image de marque, ils changent deux houblons dans une bière, puis ils mettent un nouveau nom, travail que ça, mais ils font un travail de marque. Puis, de l'autre côté, pendant la pandémie, j'étais allé me chercher des bières au Cheval Blanc à Montréal, qui est la première brasserie artisanale au Québec. Puis, sans blague, à chaque fois, je tombe sur le cul quand je goûte leurs produits. C'est hallucinant. Puis, il n'y a pas de line-up au Cheval Blanc. Puis, ils n'ont pas le même type de marketing, ils n'ont pas le type de production non plus, mais il y a des petits trésors partout. Il n'y a pas de line-up aussi. Là. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup sur l'image. Je ne dis pas qu'ils font des mauvais produits, mais c'est vraiment loin de là. Mais ils font un job de marketing hallucinant.
Ouais, c'est quelque chose. Oui, vraiment. Écoute, tu vois juste passer les. En fait, c'était même pas ouvert, mais Sorem, je me rappelle là, un peu le soft opening qu'il avait fait et tout. Puis le buzz était déjà là, justement, parce que l'image de marque, le marketing et tout, c'était tellement attirant. Puis ça me fait penser à un autre phénomène. On a parlé justement, j'ai parlé des groupes Facebook de bière. Puis ceux qui connaissent pas, il y a Capsule Bière qui est un lieu constant de toutes sortes d'affaires. Que c'est pas nécessairement de ça que je veux parler, mais c'est juste pour parler un peu de la culture beer geek, justement. Il y a de plus en plus des adeptes éclairés, si on veut, qui sont souvent très opiniâtres, qui sont justement... toi, justement, en tant que personne qui a été formée dans la bière, qui connaît vraiment bien le milieu, comment tu côtoies, comment tu vis avec ce... Comment tu trouves ça, ce groupe-là, les beer geeks? Est-ce que tu te considères comme un beer geek ou...
Non, je me suis jamais considéré comme un beer geek. Je suis un passionné, je suis un amoureux de ce que je fais puis de ce que dans le domaine dans lequel j'évolue. J'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passait, je me suis mis à lire puis à voyager. Puis tant que je comprends pas quelque chose, je l'explique pas ou j'en parle pas. Fait que c'est sûr que le phénomène du beer geek ou de l'influenceur, ben c'est un peu aux antipodes de ce que moi je suis. Mm-hmm. Puis au début, on comprend dans même. Je suis tellement pas réseaux sociaux, là. C'est sûr que je travaille beaucoup, j'ai un enfant. Fait que je fais peut-être une publication en 2 ou 3 semaines, alors que je devrais en faire au moins 2 par semaine. Là. Donc c'est sûr que je suis pas très médias sociaux. Mais c'est sûr qu'au début, quand j'ai vu des influenceurs commencer à parler de façon très certaine de leur coup ou de dire qu'ils voulaient former les gens puis donner l'information, ça m'a donné un coup. Ça m'a frustré, mais je me suis jamais défoulé sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais si je regarde d'autres milieux, dans tous les milieux, en fait, il y a des influenceurs ou des geeks de quelque chose qui donnent des commentaires ou des trucs. Puis j'ai rien contre quand les gens donnent leur opinion personnelle. Ça fait que ça sert les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que quand quelqu'un fait donner de l'information erronée en mettant une certaine certitude, ça me pince un peu. Mais je me dis que les gens vont faire la part des choses, puis bon, ça revient à la crédibilité des sources. Là. Je laisse les gens faire la part des choses. Puis en même temps, tout ce qui est blogueur, qui est influenceur, ben ça donne du trafic, ça met des photos de bière sur Instagram, puis ça fait partie maintenant de cette culture-là, puis du partage de découvertes. C'est complémentaire, en fait.
Non, c'est ça. Ben, je trouve intéressant d'en glisser un mot parce que c'est une culture qui, en tout cas, pour je ne suis pas impliqué plus qu'il faut là-dedans, qui peut être assez toxique. On a, ben, comme justement, quand tu dis dans n'importe quelle fanbase, que ce soit Star Wars ou, tu sais, je veux dire, dans le sens, il y a un peu le même phénomène de chasse gardée, de gens qui pensent détenir, qui sont très agressifs avec ce qu'ils aiment beaucoup. Mais en tout cas, c'est, je trouvais ça intéressant quand même. Le clash est là entre, je pense, que tu fais une approche qui est plus, on découvre l'amour du produit, puis justement, un amour de je sais pas quoi, de du crédit dit que ça peut te donner ou quelque chose comme ça. Il y a quand même ce phénomène-là, je pense. Là.
Alors, il faut juste faire attention. Puis il y a des trolls dans ce domaine-là, comme dans n'importe quel. Puis des fois, c'est que ça passe des commentaires, puis tu mets un peu la main dans le tordeur, puis tu es pris sur des discussions pas possibles, tu mènes à rien pendant des heures. Puis pendant ce temps-là, ben, tu n'as pas joué avec tes amis ou tu n'as pas pris une bonne bière au soleil. Que...
Non, c'est ça.
Juste qu'au final. Garder les doigts loin du tordeur.
Parce qu'au final, on veut juste boire une bonne bière. Là.
Ben exactement. Puis si j'ai affaire de la vulgarisation ou de l'explication ou de la formation, moi personnellement, je le fais par d'autres moyens. Je vais faire sur ma page personnelle, je vais faire à travers des conférences dans des bars, dans des restaurants, ou je vais former des équipes. C'est là que moi je performe, c'est là que moi je peux livrer une information de qualité. Je vais pas me battre sur les réseaux sociaux avec quelque chose qui me froisse un peu. Là.
Okay, ben c'est bon, là, on a parlé beaucoup des brasseries puis du milieu de la bière. Peut-être un dernier bloc en terminant. On parlait de la bière elle-même. Toi, justement, en tant que sommelier, t'as goûté un tu as goûté un paquet de trucs. Qu'est-ce que tu recherches, toi, dans une bière? C'est une question qui est très large, mais justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une bière va se démarquer d'une autre? Là? C'est, qu'est-ce que tu veux retrouver comme expérience en tant que goûteur, avant tout? Là?
Ouais. Moi, la première chose que je recherche, c'est de l'équilibre. C'est vraiment très important pour mon palais. Ça l'est peut-être pas pour d'autres personnes. Je veux un équilibre de saveur. Donc, une certaine complexité. Des fois, ça peut être très, très simple. Mais... Par simple, c'est compliqué souvent, en fait. C'est ça la base. Là. Je veux de l'équilibre dans mes saveurs. Je veux pas quelque chose... Si quelque chose est fortement houblonné, ben je veux quelque chose qui va... Peut-être un malt qui va le baquer ou l'amertume qui va compenser les sucres résiduels. Je veux quelque chose qui est assez désaltérant.
Ouais.
Il y a un processus, je pense, pour toute personne qui s'intéresse, qui se met à la dégustation. Je me rappelle, mettons, quand j'ai commencé à boire du vin il y a des années de ça... Je voulais boire des Malbec ou des vins du Nouveau Monde bien puissants, des gros rouges tanniques. Puis à force de boire du vin, ben je me suis mis à boire du blanc. Puis maintenant, ce que je bois, c'est genre des gamay, puis du Blancpain-Kish, puis des pinots noirs. Là. Donc, je veux des choses plus délicates, plus équilibrées, mais avec des subtilités. Puis c'est de plus en plus ce que je recherche personnellement à la bière. Ça m'empêche pas de prendre une double IP de temps en temps ou un Imperial Stout, mais même... Un monstre peut avoir de l'équilibre. Donc, c'est la première chose que moi je recherche personnellement.
Oui, ben c'est quand même intéressant que j'ai quand même quelques amis qui sont pas mal dans le vin, puis ils ont souvent ce parcours-là de tu commences à t'intéresser à quelque chose, puis tu vas être dans le, je sais pas, là, les affaires les plus extrêmes. On a comme l'impression que c'est ça qu'il faut faire, puis il y a comme un retour, justement, que tu m'expliquais avec le vin, là, que t'es dans des grosses bouteilles super corsées et tout, puis justement, tu reviens à ces vins-là plus légers. Puis je pense que le monde du vin est beaucoup là en ce moment. Là, tu vois, dans les restaurants, les sommeliers vont souvent être portés à te conseiller des trucs plus légers. Puis justement, tu disais, tu cherchais l'équilibre, ça me fait penser à un style de bière que. Mais peut-être deux styles, qu'il y a un autre débat qu'il y a beaucoup. Au niveau des smoothies, par exemple, les bières mélangées avec de la purée de fruits, ben, il y a les pastry stout, là, où on met à peu près tout le Tim Hortons dans le brassin. Toi, comment tu vois ces styles-là? Parce qu'encore une fois, c'est un débat qui fait rage. Il y en a qui disent pas de la bière, c'est un dessert ou c'est un jus de fruits. Toi, ce que t'aimes ces styles-là, j'ai déjà peut-être une idée de que t'as peut-être tes réserves, mais qu'est-ce que t'en penses?
Encore là, je te dis très diplomate, c'est pas pour... C'est le débat juste parce qu'il y a encore des pour et des contre. Pour ce qui est des smoothies, j'en ai goûté quelques-uns. Puis, sans blague, c'est pas mauvais. C'est souvent très bon. On prend une Bernardaise, donc une bière sûre avec entre 5 et 10 % d'alcool. C'est carrément mélangé avec de la purée de jus de fruits fraîchement écrasé. Donc, on s'attend à des fruits frais. C'est bon, là. À partir de là, ce qu'on appelle ça de la bière, c'est là que moi, j'ai peut-être un peu plus de difficultés. Pour moi, c'est un cocktail, c'est un mélange à la bière, parce que le fruit n'a pas été fermenté, n'a pas été assemblé. Mmh. Mais lorsque dans un pub, on nous fait, même des fois, ils se servent dans des machines à slush. Là, on sent que ça a de la texture, c'est savoureux, ça goûte le fruit. Donc, pour moi, c'est un panaché, c'est un cocktail. Là où est-ce que j'ai un peu de difficulté, par contre, c'est que souvent, ils vont mettre ça en canette, puis ils nous disent de garder ça au froid, puis c'est pas pasteurisé. Il y en a des canettes qui vont péter prochainement, puis peut-être du monde qui vont manger des éclats dans les yeux.
Ça, ouais, vraiment, ouais, ça, c'est un problème. Ouais.
Ouais, puis de laisser la responsabilité au client de marquer « garder ça au froid », on peut pas y laisser toute la responsabilité au client, puis à un moment donné, il va y avoir un accident, puis les autorités vont s'arranger avec ça. Donc, notre technique, c'est de pasteuriser ces fruits-là ou ce mélange-là pour le stabiliser. Mm-hmm. Puis au niveau des pastry stouts, ben j'en ai goûté peu. Pour vrai, j'ai mes deux mains, peut-être une main, alors tout ce que j'ai goûté. Pas parce que... C'est vraiment parce que moi, je suis pas une bébite de sucre. Je suis vraiment pas une bébite de sucre. Je mange pas vraiment de dessert. Puis on s'entend que c'est sucré. Pour moi, c'est comme l'équivalent de manger du Quick pas dilué.
Oh, c'est un dessert, c'est un dessert. Avec un 10% d'alcool.
c'est une sacrée dose de sucre. Mais ces deux produits-là apportent quand même des consommateurs qui buvaient pas de bière vers la bière ou la bière de microbrasserie. Donc, ça là aussi, c'est pour, mais les grands brasseurs font ça depuis des années. Hein, la Coors Ice Tea, la Tornade, la je sais plus quoi à l'orangeade, la limonade, etc. Donc, jusque-là, c'est fait avec des bons ingrédients, puis c'est bien fait. C'est des cocktails à base de bière, mais avec des ingrédients de première qualité.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un risque de ça. On pense pas à ça, mais justement, les canettes qui sont vraiment explosives, là, écoute.
Ben, c'est arrivé.
Ben oui, c'est ça. Elle m'a pas éclaté au visage, mais tu sais, c'est des produits qui sont pas très stables, là. C'est pour ça que je pense que ça serait peut-être mieux que ce soit servi, justement, dans les taproom, dans les brasseries elles-mêmes. C'est comme un peu des petites bombes, là, que les gens vont pas toujours gérer avec beaucoup de prudence. Mais ouais, je suis quand même d'accord avec ce que tu as dit, même si j'ai bu plus qu'une main de pastry stout. Genre, je me fais des fois avoir par le hype, puis j'achète les bouteilles de Bocanada ou Messorim ou peu importe, mais justement, je te dis ça comme ça, mais t'as-tu un ou deux coups de cœur récents, là, c'est l'été, des produits que t'as goûté récemment, sans dire que les autres sont pas bons ou que c'est seulement ceux-là qu'il faut boire, là, je t'avais pas averti à l'avance qu'on allait faire ça, y a-tu un ou deux trucs que tu trouves intéressants, ça peut être trois ou ça peut être un, c'est comme tu veux.
Dernièrement, je vais juste avec mes dernières semaines, ben mettons, oui. Là, j'ai goûté à une pale ale de style Nouvelle-Angleterre de 5e Baron qui s'appelle la Blazer. Donc, une bière à 5,5%, 5, autour de 5-6%, assez très voilée, hein, dans le style Nouvelle-Angleterre. Une belle dose de houblon, très, très aromatique. Mm-hmm. Mais en même temps, la bière, elle avait probablement une bière qui n'avait pas trop de levure en suspension. Des fois, les New England ont encore beaucoup de du houblon encore très vert, très jeune, ou de la levure en suspension, puis je trouve ça très tannique, ce que j'aime moins. Dans ce cas-là, ça ne l'était pas. Donc, on parlait d'équilibre tantôt, là, il y avait un bel équilibre, et elle finissait assez sèche. Donc, c'était très désaltérant. Puis, en fait, tout ce que j'ai goûté de 5e Baron, puis de Brasserie de Gatineau, à date, dans différents styles, j'ai goûté à une Pilsner, j'ai goûté à une Dunkel, je pense, un Porter, tout est magnifique. Donc, j'ai pas encore eu la chance de laisser la brasserie, mais tout est bon de cette brasserie-là. Puis sinon, dernièrement, j'étais dans les Laurentides, puis j'allais visiter la brasserie Agawan, qui est à Val-Morin, une petite brasserie, un petit équipement de qualité, mais extrêmement simple. Pareil pour le bâtiment, donc vraiment, c'est une brasserie que j'ai trouvé qui cherchait la simplicité, mais avec le souci du détail. Puis j'ai goûté une belle Pilsner, très belle, très, très propre, très bien faite, puis des belles bières houblonnées, encore là, très aromatiques, délicates, mais toujours avec le souci du côté désaltérant de la chose, puis tu peux te prendre deux ou trois canettes de suite sans te sentir que... En fait, encore de l'équilibre qui permet d'appeler la prochaine canette et la prochaine gorgée.
Mmh. Ouais. Ah ben, c'est deux bonnes suggestions que j'ai même pas goûté moi-même, ces deux produits-là, fait que j'en prends bonne note, ne serait-ce qu'en tant qu'amateur. Je te poserais peut-être une question en terminant qui est assez ouverte. Quelqu'un, là, parce que justement, comme je te disais, nous, on change à chaque semaine de thème, là. On a fait les invités, on a reçu une drag queen, j'explore plein de domaines, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui nous écoute qui est ferré dans la bière ou même qui en boit vraiment beaucoup. Selon toi, quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser au monde des microbrasseries au Québec, à l'ère justement où il y en a plus que jamais, où il y a plus de variétés que jamais. Par où on commence, selon toi?
Bien, ça dépend toujours du consommateur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime? En fait, ma première question, je pose aux gens, qu'est-ce que vous aimez boire en général? Donc, qu'est-ce que tu aimes boire? Puis savoir aussi, pourquoi tu n'aimes pas la bière? Qu'est-ce que tu n'aimes pas la bière? Mm-hmm. Des fois, le monde dit, ah, ben tu sais, Mon père avait de la Budweiser, puis j'aime pas ça. J'ai dit, OK, parfait. Maintenant, on va repartir à zéro, puis on va découvrir d'autres bières. Puis, j'ai rien contre les bières commerciales. Ça a une utilité comme le pain tranché. Mais maintenant, on va goûter à des baguettes françaises, un pain ou levain. On va goûter à autre chose. Fait que c'est ma première question. Mais sinon, peut-être la façon. Quelqu'un qui boit peut-être de la bière commerciale, puis qui aime moins les bières de microbrasserie, bien, j'irais vers les lagers. On a de plus en plus de belles lagers au Québec. 100% grains, 100% céréales, avec des beaux blonds. Les niveaux d'amertume varient beaucoup, donc on peut faire une transition entre la bière industrielle et la bière microbrassée avec une belle lager. Sinon, si les gens n'aiment vraiment pas la bière, ben justement, peut-être que là, des bières comme des New England Pale Ale ou New England IPA, donc des bières très aromatiques, très fruitées, mais sans l'amertume très puissante, peut être une belle entrée en la matière. Et même des fois, les bières sûres, hein, chez certains consommateurs, consommatrices, une bière sûre ou légèrement acidulée avec un petit fruit fermenté, donc une bière à la framboise ou peu importe c'est quoi, là, peut être une belle introduction parce que souvent, je fais goûter ça à des gens, ou même j'ai déjà fait goûter à ma grand-mère une saison sûre à la framboise, puis le premier réflexe, c'est comme « Ah, mais c'est pas de la bière. Ça goûte pas la bière. » Oui, ça en est, mais c'est une autre dimension de la bière, c'est large, puis... Fait qu'on peut aller chercher d'autres saveurs puis d'autres clientèles de cette façon-là, mais ça dépend ce que les gens aiment à la base.
Ben c'est super, justement. Moi, je pense que les sûres, effectivement, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens qui n'aiment pas le goût, entre guillemets, de la bière, si on veut. On entend ça des fois. Là. Ben écoute, merci beaucoup, Yann Lortie, d'avoir accepté de venir nous parler. J'inviterai les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Je sais que tu dis que tu n'es pas très actif, mais quand même un peu. Moi, je t'ai découvert comme ça. Fait que je vous invite à aller le suivre. Puis merci beaucoup d'avoir pris du temps pour parler avec nous de la bière. Puis santé, comme on dit.
Ben ça fait plaisir. Puis merci d'avoir l'opportunité pour discuter de ma passion. Puis ça fait plaisir.
Ben, merci beaucoup. Bonne fin d'été. Puis au plaisir de se croiser dans un événement de bière peut-être un jour. Fait que merci.
Salut,
bonne soirée. Bon. Salut. Donc, c'était ça. Hein? Notre belle émission. On aime ça, l'eau dans gave, c'est l'ancienne émission. C'est l'émission Cambrise et Mortadelle, c'est ça. Mortadelle. Ben écoute, la semaine prochaine, il reste 2 semaines à l'émission. J'ai dit 3, il reste 2 semaines. Je sais pas trop, ça va être qui ou quoi, mais on va avoir 2 belles semaines encore.
C'est
parce
pas
que...
arrangé, cette affaire.
Non, c'est ça. Fait que on va aller voir ça, on s'en va en pub. Il n'y a pas d'émission après. J'annonçais toujours l'émission après. Là, il n'y en a plus. Ils ont arrêté, il finit de bonheur. Ben, tout coupé.
Tu t'offres plus longtemps que ça?
Non, je pense qu'il y avait des enjeux d'or. C'est pas grave. Là. Ils expliqueront non, ça. À 8h30, il y a Beatnik Radio. Écoutez ça. Chez 94.3. Bing, bang, pow, pow. C'est la radio. On adore ça.
Salut.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chez 94.3. Le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois. T'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
T'as soif de musique et de petites limonades sucrées? L'équipe de Chiz 94.3 te propose, de façon bimensuelle, la playlist d'un ou d'une des employés. Tous les mercredis dès 13h, manque pas la playlist 2. Question de rajouter un peu de glucose fructose auditif à ton été.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Joint. Tiens, Joint, prends les clés.
Es-tu fou? Je suis bien que trop stone. Hey, Bière!
Ah non, une fois que je prenne pof, je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Et puis 2-3 pof.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4545. 418-456-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute CHIZ 94.3.
Je suis pas la cigale, je prends pas de repos. Je vis dans une spirale, une course quotidienne. Je me presse le citron pour tenir le tempo. Je ne serai pas déçu qu'arrive la fin de semaine. Se lever à 6 heures, partir pour le bureau. Déposer le plus jeune chez les bedons de laine. Prendre un itinéraire d'une durée certaine. Répondre à mes messages, déjeuner dans l'auto.